Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Dufieux. Bonjour Philippe Dufieux.
Bonjour, merci de votre accueil.
On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, effectivement, dans le cadre de cette émission Au rendez-vous de l'histoire. À l'époque, c'était Christianisme Magazine. Et aujourd'hui, c'est bien sûr Codex numéro 3, actuellement en kiosque, qui consacre à plusieurs articles sur Lyon. Il y a non seulement une exposition magnifique à Fourvière, mais il y a aussi Lyon, la catholique au temps des Canuts, au point qu'on a pu dire que Lyon était la capitale catholique de la France au XIXe siècle. Vous seriez d'accord avec cette formule ?
Oui, quitte à faire des jaloux, effectivement, on pense à Paris et à Lille, mais indéniablement, et nous peut-être nous reviendrons nous sur cet aspect, Lyon s'impose assez tôt finalement comme la capitale des missions françaises, tout à fait.
Voilà, il y a une antériorité finalement lyonnaise. Les Lyonnais ont commencé finalement dès l'époque du Concordat, finalement.
Oui, très tôt, au fond, il y a un double mouvement qui va caractériser, vraiment marquer le catholicisme lyonnais, notamment, et son expansion. C'est le simple fait que les missionnaires suivent les marchands, au fond, et Lyon tisse des liens avec l'ensemble du bassin méditerranéen, avec l'Extrême-Orient, et la fondation notamment de la propagation de la foi par Pauline Jaricot, au début des années, en 1822, va permettre, va soutenir le développement, cet effort missionnaire, au point de tisser un maillage d'une rare densité à l'échelle, en tout cas de nouveaux territoires à évangéliser.
Voilà, le commerce et l'industrie accompagnent, précèdent finalement le mouvement missionnaire.
Complètement. Et c'est l'une des grandes qualités de Lyon, sa situation géographique depuis l'Antiquité, bien sûr. Mais finalement, cette situation est à l'extrémité, son positionnement à l'extrémité septentrionale de la vallée du Rhône lui ouvre en quelque sorte les portes de la Méditerranée à travers Marseille. Et très tôt, en réalité, les marchands vont sillonner le monde, à la fois l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie, notamment la Chine en particulier, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et les missionnaires ne sont jamais très loin, évidemment. Ce qui va aussi, outre le caractère catholicisme social qui marque tant le Lyon du XIXe siècle, cet aspect, cette ouverture sur le monde dont Fourvière finalement est l'un des symboles les plus éloquents.
Alors, c'est une ville extrêmement dynamique, économiquement et même démographiquement finalement.
Alors, la démographie, c'est tout le paradoxe de cette ville qui, en réalité, est un territoire absolument minuscule. La ville, les limites administratives de la ville n'évoluent pas pratiquement avant l'annexion des communes suburbaines en 1852, au début du Second Empire. La commune de Vaise, la Guillotière, la Croix-Rousse, bien sûr, mais la superficie de la ville reste absolument minuscule comparée à celle de Paris et de Marseille, notamment, qui est une ville immense, Marseille. Et le sentiment d'appartenance à Lyon n'a jamais dépassé ces limites-là. Quand vous êtes à Villeurbanne, vous n'êtes pas à Lyon. Quand vous êtes dans les communes du Mont du Lyonnais, vous n'êtes pas à Lyon non plus. Donc cette identité lyonnaise ne dépasse pas ses frontières administratives. Et dans le même temps, tout le génie de la ville est justement d'avoir su développer un génie commercial, industriel et de lancer en quelque sorte des marchands, des commerçants, des missionnaires sur quatre coins du monde. C'est véritablement ce qui définit, me semble-t-il, la ville au XIXe siècle. Son rayonnement se mesure en réalité à son envergure économique et à ses réseaux commerciaux. Absolument pas à son incidence, j'allais dire, territoriale à l'échelle même du grand quart sud-est de la France.
Oui, vous écrivez même que Lyon se lance tardivement dans de grandes opérations d'urbanisme.
Alors, finalement. Tardivement, il faut toujours comparer à l'an
19e.
Oui, voilà. De toute façon, les communes n'ont pas les moyens juridiques avant les décrets de 1841 et puis surtout 1852 qui généralisent les processus d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est ce qui va permettre notamment au Second Empire, au préfet Weiss à Lyon comme Haussmann à Paris, de mener leurs grandes opérations urbaines. Les communes n'ont que très peu de moyens pour intervenir sur le remodelage du tissu urbain. Des rares mesures qu'elle possède, sont les questions d'alignement. C'est-à-dire qu'on peut imposer à un propriétaire, lorsqu'il démolit sa maison, pour le reconstruire avec un nouvel alignement. Autant dire que la rectification d'une rue peut prendre des siècles. Donc on se rend bien compte des limites de ce type de politique, ce qui en dit long sur combien la propriété privée est respectée, notamment au XIXe siècle, au lendemain de la Révolution en particulier. Et donc il faudra mise en œuvre d'une réglementation, en tout cas de dispositifs juridiques précis, de manière à pouvoir transformer une ville qui finalement se densifie considérablement, surtout à partir du XVIIe siècle. La ville littéralement explose de ses limites administratives dans la seconde moitié du XVIIIe, ce qui va amener notamment l'étude d'un certain nombre de grands projets urbains qui seront partiellement réalisés au cours du XIXe.
Alors, j'ai oublié de dire, Philippe Dufieux, que vous êtes professeur d'histoire et de culture architecturale à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. C'est pour ça que vous connaissez tellement bien et si magnifiquement votre ville. Alors, une ville démographiquement qui passe en gros de 100 000 à presque 500 000 habitants à la fin du 19e siècle.
Tout à fait. Et alors, c'était la première question, pardon. Oui. Effectivement, et le paradoxe de la ville, c'est que finalement, on vient naître à Lyon. C'est-à-dire qu'en réalité, l'augmentation des naissances n'est pas due à la natalité à proprement parler, mais le fait que l'on vient accoucher à Lyon, notamment à l'Hôtel Dieu, de toute la région. Donc en fait, mais le bilan de la natalité reste assez médiocre pour la ville elle-même, en quelque sorte. C'est tout le paradoxe de cette situation.
Est-ce que Lyon, dès cette époque, est en tension avec Paris, la centralisation parisienne, le jacobinisme issu de la Révolution française et de l'Empire ?
Oh, depuis au moins le XVIIe siècle, moment, et sinon antérieurement, mais pour se libérer du pouvoir de l'évêque et des chanoines, Lyon se placera, comme toutes les villes en France et ailleurs, sous le pouvoir du souverain, du roi, bien sûr, qui va concéder ses premières franchises, ses premières chartes, et notamment privilège des foires. Mais dès le XVIIe siècle, les rois, à partir de l'édit de Chauny, vont contrôler le consulat, en réduisant le nombre de consuls, notamment, et en accentuant la mainmise politique, mais aussi culturelle sur la ville dès le début du XVIIe siècle. Et le siège de Lyon, cet épisode absolument dramatique, mais qui va vraiment marquer la conscience à la fois collective, politique, sociale, religieuse de la ville tout au long du XIXe siècle, le siège de 1793, ne fera qu'accentuer cette animosité croissante envers Paris, envers un système jacobin centralisateur. Lyon se projette vers d'autres terres, vers le grand quart sud-est, se projette et est d'une certaine manière à une bonne distance pour se tenir un peu à l'écart de Paris. Pas complètement, pas véritablement, mais quand même. J'en veux pour preuve que la ville, indéniablement, possède une vie culturelle, finalement, sans être autonome, mais réelle, au bas mot jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui prouve que la distance... une distance suffisante, nécessaire peut-être, pour se projeter vers d'autres sphères, vers d'autres horizons.
Est-ce qu'il y a aussi des horizons historiques au sens où Lyon a été une ville très ancienne et où le titre de prima des Gaules est justifié par l'histoire, donc le passé le plus ancien de la ville, le passé romain ?
Alors, Lyon s'enorgueillit de la fondation chrétienne des Gaules à travers l'épisode du martyr de 177, justement. C'est cet épisode qui fonde, en quelque sorte, le baptême des Gaules, littéralement, a lieu sur la colline de la Croix-Rousse, dans l'actuel amphithéâtre Sainte-Blandine. Ce baptême sanglant, héroïque, en 177, est l'acte fondateur, en quelque sorte, du christianisme en Gaule. Alors, c'est ce qui explique notamment cette titulature de primatie des Gaules, en tout cas, reste que, oui, alors Lyon, on peut le reconnaître, jusqu'au XIXe siècle, sera toujours le poste avancé de la romanisation des Gaules. C'est vrai à l'époque médiévale, c'est vrai à l'époque moderne, et c'est d'autant plus vrai au XIXe siècle, où le clergé parisien est... sans avoir des tendances gallicanes, mais entretient quand même une certaine... Lyon sera invariablement, hormis l'affaire de la liturgie qui empoisonne les relations entre Rome et Lyon, mais ça a toujours été le poste avancé de la romanisation des Gaules. Et c'est d'autant plus vrai sous l'Ancien Régime que, face à un clergé plutôt gallican sous l'Ancien Régime, Rome affiche une fidélité sans faille au magistère pétrinien.
Alors, une ville qui se développe démographiquement, économiquement, et puis une ville qui affirme haut et fort son identité chrétienne, son identité catholique.
Tout à fait, très tôt, c'est l'un des effets. Alors, foisonnement, l'extraordinaire renouveau du catholicisme au XIXe siècle, dont on ne finit pas d'étudier l'extraordinaire foisonnement et l'extraordinaire fécondité, notamment première décennie du XIXe siècle, n'est pas seulement l'une des conséquences de la Révolution, mais c'est un phénomène beaucoup plus complexe en réalité. tout se confond d'une certaine manière. Renouveau religieux, renouveau artistique, renouveau économique, renouveau également de la spiritualité contemporaine, la question sociale qui apparaît très tôt, dès le début des années 1830, avec ses révoltes en 31 et 34, puis la révolution de 48. Lyon est à bien des égards, finalement, un observatoire privilégié des extraordinaires mutations qui s'opèrent, tout particulièrement dans la société post-révolutionnaire, qui est une société d'une instabilité politique, sociale, absolument incroyable, dans la première moitié du XIXe siècle. Et Lyon permet, peut-être plus encore que Paris, eh bien, d'observer, en particulier en raison de la question sociale, eh bien, ces évolutions très rapides qui interviennent dans les premières décennies du XIXe siècle.
Oui, les canuts font parler d'eux, c'est le titre de l'article de Codex, Lyon la catholique, autant des canuts.
Voilà, tout à fait. Les canuts qui, il faut le rappeler, forment l'aristocratie de leur profession. Les canuts sont propriétaires de leur instrument de travail, ce qui n'est pas le cas des ouvriers dans les usines de tissage du nord, de l'est de la France. Non, pas du tout. Les canuts, finalement, la révolution, la fabrique, ce qu'on appelle la fabrique sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire cette organisation complètement archaïque entre des soyeux qui ne tissent rien et qui distribuent le travail à domicile, en quelque sorte, puisqu'on travaille dans son lieu de travail, les canuts travaillent dans leur lieu de travail. Ce système profondément archaïque va se reproduire, va se reformer immédiatement après la Révolution. Pour une raison simple, c'est qu'on tisse des étoffes rares, des étoffes extrêmement chères à Lyon, et qu'en fait la principale qualité de ce système très archaïque, c'est sa souplesse. Sa souplesse qui permet de répondre très rapidement aux modes, de répondre très rapidement aux commandes, alors qu'il est plus difficile réorienter des grandes unités de production, notamment manufacturières, qui essentiellement produisent des tissus de large, des textiles de grande diffusion à bas prix pour l'essentiel. La spécificité de la fabrique lyonnaise, c'est de travailler sur des petites quantités, mais dont les prix sont, évidemment, c'est un commerce de luxe. Et donc ce système-là va perpétuer en quelque sorte au XIXe siècle ce mode de production parfaitement archaïque, basé sur un travail à domicile qui est apporté par des donneurs d'ordre qui fixent les prix. Et c'est bien le problème que pose cette fixation, la question de la fixation des prix qui va soulever en 31 et 34 ces révoltes notamment des ouvriers canuts.
Nous écoutons avec beaucoup de plaisir et de bonheur Philippe Dufieux, professeur d'histoire et de culture architecturale à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, évoquer cette ville de Lyon qui, au XIXe siècle, méritait d'être considérée comme la capitale catholique de la France, si l'on en croit Codex numéro 3, actuellement en kiosque, qui consacre plusieurs articles à cette ville au XIXe siècle, à la richesse à la fois économique, humaine, spirituelle, mystique, mais aussi artistique. Parce qu'évidemment, l'art se développe à Lyon, et un art qui est souvent religieux. Je pense à la peinture.
Bien sûr, et c'est ce qui fait que cet art religieux, la modernité, elle est religieuse à Lyon, indéniablement dans le domaine artistique au XIXe siècle, essentiellement. C'est ce qui fait que des artistes comme Louis-Jean Mot en particulier ont été absents et sont encore absents des cimaises du musée d'Orsay. C'est bien le caractère religieux de cet art nouveau qui apparaît à Lyon au milieu du siècle, dans le sillage des expériences notamment de Pierre Bossan, l'architecte de Fourvière. L'idée même que la modernité puisse s'incarner dans le domaine religieux est une idée qui ne correspond pas aux stéréotypes, du moins véhiculés sur la construction de la modernité en France au XIXe et XXe. Et c'est ce qui fait que, même aujourd'hui encore, un peu moins grâce à de nombreux travaux comme ceux d'Elisabeth Ardoin-Fugier ou de Bernard Berthaud, eh bien, nous est mieux connu, mais néanmoins, oui, il faut parler de l'éclosion d'un art religieux nouveau au milieu du siècle à Lyon, dans une expérience qui n'a aucun équivalent en France à la même période.
Alors, il y a le poème de l'âme de Jean Mau, qui est une
poème de l'âme, absolument,
une gigantesque série de tableaux. Il y a 34 tableaux avec le peintre qui accompagne chacun des tableaux avec des poèmes.
Tout à fait, c'est l'une des œuvres majeures de cet idéalisme chrétien qui se développe dès les premières décennies à Lyon, dans le sillage de Ballanche. Il y a une atmosphère tout à fait particulière à Lyon dès les premières décennies, à la fois teintée d'illuminisme, de franc-maçonnerie, de recherche d'idéalisme catholique, social également. Une atmosphère qui n'aura de cesse de se développer tout au long du siècle et qui va profondément marquer également les consciences et le caractère du catholicisme lyonnais, au point que Huysmans, bien sûr, pour là-bas, eh bien, viendra mener son enquête dans les milieux spiritistes lyonnais, notamment pour essayer de cerner le propre de cette spiritualité lyonnaise, tout à fait particulière pour le coup. Et cet idéalisme chrétien, finalement, a pour ambition, c'est peut-être ce qui le définit le plus exactement, de conjuguer à la fois le progrès et l'idéalisme, le progrès social et l'idéalisme religieux, l'idéalisme chrétien, dans un essai de synthèse, de syncrétisme, on pourrait dire, tout à fait étonnant. Et cette ambition, Jean Mau va essayer de la traduire, Orsel également, et dans leur sillage, de nombreux artistes vont ambitionner de matérialiser, en tout cas, ce dialogue que pour certains considèrent comme absolument irréconciliable, évidemment. Mais en tout cas, c'est peut-être l'un des caractères. En tout cas, cette idée va profondément marquer la peinture religieuse, mais pas seulement l'orfèvrerie religieuse, bien sûr, dans le sillage d'Armand Calia, et puis les grandes œuvres qui s'annoncent dans les années 40-50 jusqu'à la construction de la basilique de Fourvière, qui est un véritable chef-d'œuvre de cet art religieux symboliste, encore une fois, qui s'émancipe à la fois de toute l'archéologie connue. Ce n'est pas une formule archéologique. Non, Bossan va poser les fondements d'un art expérimental qui va puiser dans les siècles eh bien, un certain nombre d'éléments pour les fondre en un tout absolument harmonieux et complètement inédit pour les années 1870-80.
Alors ça se passe juste après la guerre de 70.
Absolument.
Est-ce que la comparaison peut se faire avec Montmartre, le Sacré-Cœur?
Alors, elle peut se faire quand on parle du statut de ces édifices. Vous savez qu'à partir de la Troisième République, le budget des cultes, la République n'aura de cesse de vouloir contrôler en tout cas le développement des œuvres, en particulier des congrégations, mais aussi de contrecarrer en tout cas la visibilité urbaine acquise par les œuvres religieuses, notamment. jusqu'à la fin du Second Empire, l'Église et l'État, finalement, s'entendent pour participer activement et conjointement à l'embellissement des villes à partir de la Troisième République. Et la question religieuse, cette problématique se pose en des termes très différents. Or, les basiliques échappent précisément à la mainmise de l'État, puisqu'elles sont construites sous une maîtrise d'ouvrage privée, que ce soit Paris, que ce soit Lyon ou encore Marseille. Et donc, vont focaliser toutes les critiques, en quelque sorte, notamment toutes les critiques anticléricales à la fin du siècle, puisque ces basiliques échappent complètement au pouvoir des communes et au pouvoir de l'État. Alors oui, ces basiliques vont... Fourvière adresse son salut, en quelque sorte, à tout un ensemble de basiliques, qu'il s'agisse de Montmartre, qu'il s'agisse de Marseille, Sainte-Anne-d'Orée, Lourdes également, mais elles s'en distinguent par sa physionomie et par sa plastique. On a dit, bien sûr, et Jacques Benoît l'a bien étudié, pour Montmartre, qu'elle procédait d'un extraordinaire travail archéologique, notamment de Saint-Front de Périgueux et de ses églises à coupoles, notamment si particulières de l'ouest de la France, Fourvière échappe à toute classification et à toute critique, enfin, dans le sens critique contemporaine, dans le sens où sa plastique a complètement déstabilisé finalement les contemporains. On ne sait pas à quoi ça ressemble, d'une certaine manière. Alors
essayez de nous dire à quoi ça ressemble.
Très difficilement. Et bien justement, on a là un exercice qui ressemble à une extraordinaire synthèse. Et on parlait en début d'émission de l'ouverture de la ville, notamment sur le monde extra-oriental, sur le Moyen-Orient. J'ai été le premier à parler de minaret à propos de Fourvière, mais quand on regarde attentivement ces clochers, effectivement, Fourvière produit une métaphore de minaret qui, à eux seuls, au détour des méandres de la Saône, incarne, symbolise l'ouverture de la ville, finalement, au monde méditerranéen. Plus qu'un long discours, ces simples clochers en forme de minaret symbolisent à eux seuls cette ouverture sur les mondes extra-européens et notamment sur le monde, sur l'Asie et l'Orient. Alors c'est une œuvre dans laquelle...
Il y a une
bonne
photographie de Fourvière, de l'extérieur de Fourvière dans Codex. Alors maintenant, on rentre dans Fourvière. Qu'est-ce qu'on voit dedans?
Comment échapper à cet incroyable motif, ce logo génial inventé par Bossan? On entre dans une atmosphère déjà tout à fait particulière de scintillement dans lequel tout dialogue, à la fois les émaux, les vitraux, l'orfèvrerie, les sculptures, la richesse absolument inouïe de cet édifice, dont contraste avec des façades blanches et des intérieurs extraordinairement ornés, dans un parcours processionnel avec une symbolique extrêmement étudiée, à la fois une symbolique qui conduit le fidèle jusqu'à Marie, à travers Joseph, notamment par la crypte en sous-sol, mais aussi un combat, Elisabeth Ardoin-Fugé l'a bien montré, un combat mystique, puisque l'archange ponctue la composition. Tout ceci dans une recherche symbolique extraordinairement exigeante, en réalité. Et ce qui fait le propre, au fond, de Fourvière, c'est sa modernité, j'ose dire le mot, même si ça peut paraître surprenant. Les Lyonnais sont très durs par rapport aux chefs-d'œuvre qu'ils n'ont eu de cesse de financer pendant des décennies, paradoxalement, mais sont toujours très durs. Et dans le même temps, il y a une poésie, il y a une plasticité complètement inédite, il y a une image, finalement, des cieux, d'une certaine manière, cette maison, en quelque sorte, qui préfigure l'au-delà. C'est l'extraordinaire synthèse qui s'opère à travers l'architecture et les arts décoratifs menés par Pierre Bossan et son suiveur et élève Louis-Jean Sainte-Marie Perrin. Une synthèse qui n'a aucun équivalent, en réalité, en France à la même époque. C'est ce qui la rend aussi insaisissable, c'est ce qui rend les critiques aussi amères à son égard. Toutes les autres basiliques, on peut leur trouver des références archéologiques. Parler de Saint-Front de Périgueux pour le Sacré-Cœur, on peut trouver des modèles gothiques pour Sainte-Anne-d'Orée ou encore Lourdes, mais Fourvière échappe absolument à toutes les classifications. C'est ce qui la rend à la fois aussi insaisissable, aussi difficile à comprendre, mais aussi moderne.
Donc à visiter, hein, c'est les étapes d'un parcours à ne pas manquer dans Codex. Donc le musée des Beaux-Arts, effectivement, pour les peintures, Fourvière et le musée de Fourvière. Et puis le cimetière de Loyasse, alors c'est intéressant, la visite d'un cimetière.
à Lyon. Rien n'est plus intéressant que la visite d'un cimetière. Quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas ou un village que vous ne connaissez pas, vous en apprenez plus en 20 minutes ou une heure de visite que ne serait-ce que sur les patronymes des familles, ne serait-ce que sur l'importance que l'on attribue à ce type de construction. L'Oya, c'est un lieu d'une rare poésie. On cite à l'envi les cimetières parisiens. Le cimetière de l'Oya, notamment dans sa première partie, offre un ensemble de tombeaux néoclassiques, des pyramides, des temples à l'antique, absolument exceptionnels, d'une poésie saisissante. Rien de mieux qu'un vendredi matin au mois de février, sous la brume, pour visiter ce lieu absolument enchanteur, tout à fait.
Merci Philippe Dufieux. Merci. Donc chacun a compris que Lyon est une ville d'histoire, une ville d'art. On ne parle pas de la gastronomie, bien sûr. Mais on peut donc retrouver un certain nombre d'illustrations, un certain nombre de texte dans Codex numéro 3, actuellement en kiosque. Merci à vous, merci à notre
technicien. Merci à vous, à bientôt.
Et à très bientôt.